Chapitre 6. Ce fut à l'approche de Noël que Derby s'écroula complètement un soir qu'il me rendait visite. J'orientai la conversation vers les voyages de l'été prochain, lorsqu'il se mit à hurler soudainement et bondit de son fauteuil avec un épouvantable regard de terreur incontrôlable. Une horreur et une panique cosmiques que seuls des vents de cauchemar peuvent amener à un esprit sain. « Mon cerveau ! Mon cerveau ! Dieu d'âne ! Ça tire d'en dessous ! Ça tape, ça déchire ! Cette diablesse, même maintenant ! Ephraim ! Kamog ! Kamog ! La fosse aux chogottes ! Ya Choubnigourat ! Le bouc aux mille chevreaux ! La flamme ! La flamme ! Par-delà le corps, par-delà la vie, sous la terre. Oh Dieu !» Je le fis asseoir dans son fauteuil et lui versai du vin dans la gorge, tandis que sa frénésie se changeait en une terne apathie. Il ne résista pas, mais ses lèvres continuaient à remuer comme s'il se parlait à lui-même. Je réalisai alors qu'il essayait de me parler et tendis mon oreille près de sa bouche afin de saisir ses faibles mots. « Encore, encore, elle essaye !» J'aurais dû le savoir. Rien ne peut arrêter cette force, ni la distance, ni la magie, ni la mort. Ça vient surtout la nuit. Je ne peux pas partir, c'est horrible. Oh Dieu d'âne, si seulement tu savais comme moi à quel point c'est horrible.
Quand il sombra dans la stupeur, je l'installai sur des oreillers et laissai un sommeil normal le gagner. Je n'appelais pas de médecin car je savais ce qu'il dirait de sa santé mentale et je voulais laisser une chance à la nature, si seulement c'était possible. Il s'éveilla à minuit et je l'emmenai se coucher à l'étage, mais il était parti au matin. Il était sorti silencieusement de la maison et son maître d'hôtel, quand je lui téléphonai, me dit qu'il était occupé à faire les 100 pas dans la bibliothèque. Edward s'effondra rapidement par la suite. Il ne venait plus, mais je passais le voir tous les jours. Il était toujours assis dans la bibliothèque, fixant le vide et semblant bizarrement écouter quelque chose. Parfois, il parlait rationnellement, mais toujours à propos de sujets triviaux. La moindre allusion à ses troubles, à des plans futurs ou à Azenat, le faisait entrer dans une véritable frénésie. Son maître d'hôtel disait qu'il avait de terribles accès la nuit, pendant lesquels il aurait pu se blesser. J'eus de longues discussions avec son médecin, son banquier et son avocat, et je lui rendis finalement visite avec le docteur et deux autres spécialistes. Les spasmes qui résultèrent des premières questions furent violents et pitoyables, et ce soir-là, une voiture fermée emmena au sanatorium d'Arkham son pauvre corps qui luttait en vain. Je fus désigné comme son tuteur et lui rendais visite deux fois par semaine. J'avais presque peur d'entendre ses cris sauvages, ses chuchotements terrifiés et ses phrases terribles sans cesse répétées comme « Il fallait que je le fasse, je devais le faire, il mourra, là-dessous, là-dessous dans le noir, mère, mère, Dan, sauve-moi, sauve-moi. » Quel espoir de rémission il y avait, personne ne pouvait le dire. Mais je faisais de mon mieux pour être optimiste. Edward devait avoir une demeure si jamais il émergeait. Je transférais donc ses serviteurs au domaine Derby, qui serait certainement son choix s'il recouvrait la raison. Ce que je devais faire de la propriété Crowning Shield, avec ses arrangements complexes et ses collections d'objets totalement déconcertants, je ne puis le décider et je n'y touchais donc pas pour le moment. Et je dis à la bonne de la maison Derby d'aller y faire le ménage des pièces principales une fois par semaine, et ordonner au serviteur en charge du chauffage de faire du feu à ces occasions. Le cauchemar final intervint avant la chandeleur, précédé, cruelle ironie, d'une fausse lueur d'espoir. Un matin, fin janvier, le sanatorium téléphona pour m'informer qu'Edward avait soudainement recouvré la raison. Sa mémoire à long terme, disait-il, était gravement affectée, mais sa santé mentale elle-même était certaine. Bien sûr, il devait rester encore un peu en observation, mais il ne pouvait y avoir de doute sur le résultat. Si tout allait bien, il serait sans doute libre dans une semaine. Je me hâtai là-bas, envahi par un flot d'allégresse, mais je m'arrêtai interloqué lorsque l'infirmière me conduisit à la chambre d'Edward. Le patient se leva pour m'accueillir, me tendant la main avec un sourire poli, mais je vis en un instant qu'il arborait cette étrange personnalité pleine d'énergie qui semblait si contraire à sa propre nature, la forte personnalité que j'avais trouvée si vaguement horrible et dont Edward lui-même avait affirmé qu'elle était l'âme de sa femme qui l'envahissait. C'était le même regard flamboyant, comme celui d'Azenath et du vieil Ephraïm, et la même bouche volontaire. Et quand il parla, je pus percevoir la même vague ironie persuasive dans sa voix, cette profonde ironie qui semblait révéler un mal en puissance. Il s'agissait de la personne qui avait conduit ma voiture cette nuit-là, 5 mois auparavant. Celui que je n'avais pas vu depuis cette brève visite où il avait oublié le vieux code à la porte d'entrée et qui éveillait en moi des peurs tellement confuses. Et maintenant j'étais empli de ce même vague sentiment d'une altérité blasphématoire et d'une ineffable monstruosité cosmique. Il parla avec affabilité des préparatifs pour sa sortie, et il n'y avait rien d'autre à faire pour moi que d'approuver, malgré des lacunes remarquables dans sa mémoire récente. Pourtant, je pensais que quelque chose était terriblement, inexplicablement, faux et anormal. Il y avait dans tout cela des horreurs qui étaient au-delà de ma compréhension. Il s'agissait d'une personne saine d'esprit, mais était-ce vraiment l'Edward Derby que j'avais connu? Et sinon, qui était-ce ou qu'était-ce? Et où était Edward? Cette chose devait-elle être libérée ou rester confinée? Ou devait-elle être extirpée de la face de la terre? Il y avait quelque chose d'abyssalement sardonique dans chaque parole de la créature. Le regard qui évoquait celui d'Azenath semblait donner un ton déconcertant et moqueur à certaines paroles qui faisaient référence à une liberté acquise à l'issue d'un confinement particulièrement étroit. Je dus me comporter de façon particulièrement maladroite et fus heureux de battre en retraite. Toute cette journée et la suivante, je ressassai le problème dans mon esprit. Qu'était-il arrivé? Quelle sorte d'esprit regardait à travers ses yeux étrangers dans le visage d'Edward? Je ne pouvais songer à rien d'autre qu'à cette énigme obscure et terrible, et j'abandonnai tous mes efforts pour faire normalement mon travail. Le matin suivant, l'hôpital appela pour dire que le patient était guéri et était dans le même état. Et le soir, j'étais proche de la dépression nerveuse. Un état que je veux bien reconnaître, bien que certains diront qu'il a conditionné l'expérience que j'ai vécue ultérieurement. Je n'ai rien à dire sur ce point, si ce n'est que nul coup de folie de ma part ne peut expliquer tous les faits.